Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Voici une émission qui pourrait nous rendre nostalgiques. L'idée était de demander aux auditeurs de radio, on est en 1956 et France Culture n'existe pas encore, de fabriquer leur propre anthologie poétique. Puis, de faire lire ses poèmes par de grands comédiens comme par exemple Alain Cuny, François Perrier ou encore Serge Reggiani. Le choix des auditeurs pourrait passer pour très conventionnel. Ils votent pour les poètes qui sont les bases de nos bibliothèques et de notre culture. Mais justement, grâce à ces écoutes, les grands classiques reprennent leur force inouïe, leur fraîcheur, leur nouveauté et leur scandaleuse inventivité. Avec ce soir, François Villon et Victor Hugo.
Faites vous-même votre anthologie. Une émission réalisée d'après le concours référendum de la poésie française, organisée par la Radio-Télévision française. Présentée par François Perrier et Marie Demps, avec aujourd'hui le concours d'Alain Cuny, René Lefebvre et Serge Reggiani. Avec la collaboration artistique de Roger Pilaudin. Illustration musicale de Maurice Jarre. Prise de son d'Albert Laracine. Production et réalisation, Philippe Soupeau et Jean Chouquet.
Ce soir, nous consacrons notre émission à...
Victor Hugo.
Non, Marie, non, je vous prie de m'excuser, non pas à Victor Hugo, mais à Villon, comme je l'ai annoncé la semaine dernière.
Puis-je vous demander par quelle faveur vous faites passer, François, Villon qui n'a que 7613 voix au classement général des poètes avant Victor Hugo, qui lui a obtenu 8882 voix. Je vous rappelle, François, que l'ordre est le suivant. Premier, Ronsard, deuxième, La Fontaine, troisième, Verlaine, quatrième, Hugo, cinquième, Villon. Nos auditeurs qui ont participé au grand concours référendum de la poésie française ne vont pas être contents. Est-ce que je m'abuse, François?
Non, mon chéri, vous ne vous abusez pas, mais votre indignation fait plaisir à voir. Mais que voulez-vous, en poésie comme en amour et comme partout, le cœur a ses raisons.
Que la raison ne connaît pas. Alors?
Alors, j'ai préféré commencer l'année. Au fait, bonne année, Marie.
Ah, bonne année, François.
Bonne et heureuse année à tous les auditeurs amis de la poésie. J'ai donc préféré commencer l'année en compagnie d'un poète que j'aime tout particulièrement, François Villon, ou Villon, comme disent d'autres. La semaine prochaine, nous parlerons du grand Victor Hugo.
Ah, François, faites très attention à ce que vous dites. Je suis très attirée, mais je ne sais pas si je dois vous suivre vos goûts, mes frais. Vous aimez Villon et Villon était un dévoyé.
Eh oui, n'ayons pas peur des mots, Marie. Villon était un mauvais garçon, un voyou, un malfaiteur, un meurtrier, un crocheteur professionnel. Imaginez, si vous voulez, que Tony le Stéphanois, le héros du Rififi chez les hommes, soit aussi un poète de génie, et vous aurez une image de Villon. Car j'insiste, Marie, Villon a du génie et du plus pur. Et je suis heureux que les auditeurs aient aussi parfaitement rendu justice à ce génie en classant Villon, poète du XVe siècle, au cinquième rang des poètes français. Écoutez sans perdre une seconde, Marie, chanter le génie poétique de Villon dans cette célèbre ballade des Dames du temps jadis qui a obtenu 2593 voix et qui va être dite par Alain Cuny.
Dicte-moi où, dans quel pays effleura la belle romaine Archipiada Neutaïs, qui fut sa cousine germaine. Écho, parlant qu'en Briton mène, dessus rivière ou sus-estan, qui beauté eut trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui fut chastre et puis moine, Pierre Esbaillard à Saint-Denis? Pour son amour eut cet Essoan. Semblablement, où est la Roanne, qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine. Mais où sont les neiges d'antan? La Roanne blanche comme un lys qui chantoua ta voix de sereine, Berthe au grand pied, Biétrice, Alice, Arande Bourgès qui tient le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine qu'en gloire brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince, n'enquérez de semaine où elles sont, ne de 7 ans que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan?
Oh, j'adore cette ballade. Elle s'insère dans le Grand Testament, je crois.
Presque toutes les ballades les plus célèbres de Villon, Marie, sont contenues dans ce Grand Testament qui est une sorte de longue complainte où Villon, à sa manière, nous conte sa vie.
Ah, cela doit être passionnant. Je voudrais l'entendre, François, en entier.
Oh, impossible, Marie. Ce Grand Testament comporte 175 couplets de 8 vers chacun, plus une quinzaine de ballades. Il nous faudrait, je ne sais pas, 3 émissions. Si vous le voulez bien, Marie, nous allons nous livrer, avec le concours de notre ami René Lefebvre.
Un René Lefebvre qui fit l'an dernier une série d'émissions burlesques et poétiques, intitulée justement L'affaire Villon.
Oui.
Et où il s'était lancé, je crois, en compagnie de son ami Pierre Dac, à la recherche des neiges d'antan.
Exactement, Marie. Donc, avec René Lefebvre, nous allons nous livrer au petit jeu des citations caractéristiques qui nous permettront d'éclairer et d'illustrer cette vie dangereuse de François Villon. D'abord, François Villon commence à décrire ce testament en prison.
Ça commence bien.
Comme vous dites. D'ailleurs, Villon en avait l'habitude. Il passa une grande partie de sa vie en prison. Cette fois, il était incarcéré, pour des motifs inconnus, dans la prison épiscopale de Main, qui dépendait de l'évêque d'Orléans, Thibaud d'Ausigny, auquel Villon voue immédiatement une haine farouche, ce qui d'ailleurs était bien normal. Il la crie dans les 3 premières strophes du Grand Testament.
En l'an 30e de mon âge, quand à toutes mes hontes j'eus bu, ni du tout folle, ni du tout sage, nonobstant maintes peines eues, lesquelles j'ai toutes reçues sous la main Thibaud d'Ausigny, c'est vrai qu'il est, saignant les rues, qu'il soit le mien, je le renie. Mon seigneur n'est ni mon évêque, sous lui ne tient s'il n'est en friche, foi ne lui doit, hommage avec. Je ne suis son serf ni sa biche, peu m'a d'une petite miche et de froid d'eau tout un été, large ou étroit, moult me fut chiche, tel lui soit Dieu qu'il m'a été. » Et s'aucun me voulait reprendre et dire que je le maudis, non fait, si bien me sait comprendre, et rien de lui je ne médis, voici tout le mal que j'en dis. S'il m'a été miséricord, Jésus le roi de paradis, tel lui soit à l'âme et au corps.
Villon ne mâche pas ses mots, c'était un réaliste. Villon avait donc 30 ans quand il écrivit dans cette prison son œuvre maîtresse.
Exactement.
Mais la suite, François?
Alors, dans la même année, vint à passer par là le bon roi Louis XI.
Si l'on peut dire.
Qui délivra Villon.
Il était donc dans un bon jour.
Marie, chut.
Et Villon fut reconnaissant, il était donc capable de bons sentiments.
Villon était capable de très bons sentiments, Marie. Il avait parfaitement conscience de ses fautes et de ses faiblesses.
Je suis pécheur, je le sais bien. Pourtant, Dieu ne veut pas ma mort, mais convertisse et vive en bien. Et tout autre que péché mort, soit vraie volonté ou en or, Dieu voit, et sa miséricorde, si conscience me remord, par sa grâce, pardon m'accorde.
Mais de quel affreux forfait, Villon, demandait-il pardon?
D'un meurtre, Marie. Il avait tout simplement tué d'un coup de dague le prêtre Philippe Sermoise pour une sombre histoire de femme.
Belle époque.
Oui, Marie, l'époque du bon roi Louis XI était fort troublée. Violence, prison, meurtre, corruption étaient le pain quotidien des honnêtes gens.
Donc Villon avait tué.
Et volé. Il avait participé notamment à un cambriolage sensationnel au collège de Navarre en 1456.
Et il regrettait? Il était bourré de remords?
Du moins, il le laissait supposer. Il regrettait, comme les mauvais enfants, de n'avoir point travaillé dans sa jeunesse.
Eh Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle, et de bonne mœur dédiée, juste maison et couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école, comme fait le mauvais enfant, en écrivant cette parole, à peu que le cœur ne me vend.
Mais Villon avait-il eu à supporter dans son enfance le poids de la misère et de la pauvreté?
Enfin, c'est ce qu'il nous dit.
Pauvre je suis de ma jeunesse, de pauvre et de petite extras, mon père n'eut oncle grand richesse, et ni son aïeul, nommé Héras. Pauvreté nous suit et trace sur les tombeaux de mes ancêtres. Les âmes desquelles Dieu embrasse, on n'y voit couronne ni sceptre.
« Donc, le père de Villon était très pauvre, et notre poète fut adopté par son oncle Guillaume de Villon, qui lui prêta son nom, car François Villon s'appelait en réalité François de Montcorbier ou des Loges, on ne sait plus exactement. Et c'est son oncle, maître Essard et Chaplin, qui lui paya ses études.
Et Villon ne s'échappa trop ses cours?
Bon, il faut croire que non, puisqu'il fut reçu bachelier et licencié maître Essard. Mais à vous seul, mon chéri, je vous dirai en confidence qu'à l'université, il préférait les mauvais garçons et les filles de joie. Écoutez cette balade et doctrine de la belle Aulmière aux filles de joie.
Oh, y pensez, belle gantière, qui m'écolière sous liésestre, et vous, blanche la savatière, hors étant de vous connaître. Prenez à dextre et à sénestre, n'épargnez homme, je vous prie, car vieille, non ni cour ni estre, ni que monoaille qu'on décrit. Et vous, la jante saucissière, qui de danser êtes à dextre, guillemette la tapissière, ne m'éprenez vers votre maître. Tôt vous faudra clore fenêtre quand deviendrez vieille, flétrie. Plus ne servirait qu'un vieux prêtre, ni que monoaille qu'on décrit. Jeanneton la chaperonnière, gardez qu'ennui ne vous empêtre. Catherine la bouchière, n'envoyez plus les hommes paître, car qui bel nez ne perpètre leur malgrâce, mais leur rit. Lait de vieillesse, amour n'impêtre, ni que monoaille qu'on décrit. Fille, veuillez vous entremettre d'écouter pourquoi pleure et crie, pour ce que je ne me puis mettre, ni qu'à monoaille qu'on décrit.
Décidément, j'ai l'impression qu'en amour, François Villon n'avait rien de cette délicatesse de sentiment qui plaît aux femmes. Je ne crois pas qu'il connût le grand amour.
Je ne le crois pas non plus. Voici comme il parlait de Samy sans aucune illusion. Fausse beauté qui tant me coûte cher, rude en effet, hypocrite douceur, amour dur plus que fer à mâcher, nommé que puis de ma défaçon sœur, charme felon, la mort d'un pauvre cœur, orgueil mussé qui Jean met au mourir, yeux sans pitié, neveu droite rigueur sans empirer, un pauvre secourir. En fait, Marie, Villon n'aima pas une femme, il aima toutes les femmes.
Nuance, mon cher François.
Et voyez-vous, dans la conversation comme dans la galanterie, Villon ne dédaignait pas la comparaison. Tenez. Quoi qu'on tient belle langagière, florentine, vénitienne, assez pour être messagière et mêmement les anciennes, mais soit lombarde, romaine, genevoise à mes périls, piémontoise, savoisienne, il n'est bon bec que de Paris.
Oh, François, arrêtez-vous, s'il vous plaît, faites-moi un grand plaisir. À ce réalisme brutal, je préfère vraiment la plus poétique, la plus jolie, la plus délicate des ballades, celle que toutes les femmes préfèrent, la ballade des dames du temps jadis. Je voudrais la réentendre.
Alors, Marie, je vous la ferai réentendre, mais chantée cette fois, par Georges Brassens, qui accompagne ce poème d'une musique merveilleuse et qui, lui, est dans la vérité, car au temps de Villon, quand on récitait un poème, on s'accompagnait à la guitare.
Dites-moi où, dans quel pays, effleura la belle romaine Archipiada Netaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtrée fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet essoine, semblablement tout est la reine qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? Fût jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Prince Nanterre de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
Merci François, il y a encore une femme dont vous ne m'avez pas parlé dans la vie de Villon, c'est sa mère. Elle n'a pas dû être très fière d'avoir engendré un pareil chenapan.
Hélas, un jour il imagina que sa mère lui demandait d'écrire en signe de remords une ballade pour prier Notre-Dame, pour lui demander pardon. Et ce fut l'un des plus beaux poèmes de la langue française.
Oh, dites-le moi François.
Dame des cieux, régente terrienne, empereurière des infernaux palus, recevez-moi, votre humble chrétienne, que comprise soit entre vos élus. Ce nom n'obstant, conque rien ne valut, les biens de vous, madame et ma maîtresse, sont trop plus grands que ne suis pécheresse, sans lesquels biens âme ne peut mérir n'avoir les cieux. Je n'en suis jongleresse. En cette foi, je veux vivre et mourir. À votre fils, dites que je suis sienne, que de lui soient mes péchés abolus. Pardonnez-moi comme à l'Égyptienne, ou comme il fit au clerc Théophilu, lequel par vous fut quitte et absolu. Combien qu'il eût au diable fait promesse, préservez-moi de faire jamais ce, vierge portant sans rompure encourir, le sacrement qu'on célèbre à la messe. En cette foi, je veux vivre et mourir. Femme, je suis pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, on que l'être ne lut. Au Moutier, voix dont je suis paroissienne, paradis peint où sont harpes élues, et un enfer où damnés sont boulus. L'un me fait peur, l'autre joie et liesse. La joie à voir fait moi haute déesse, à qui pécheurs doivent tous recourir, comblés de foi sans feinte ni paresse. En cette foi, je veux vivre et mourir. Vous portâtes, vierge digne princesse, Jésus régnant qui n'a ni fin ni cesse, le Tout-Puissant prenant notre faiblesse, laissa les cieux et nous vint secourir, offrit à mort sa très chère jeunesse. Notre Seigneur, tel est, tel le confesse. En cette foi, je veux vivre et mourir.
Cette langue est belle, violente, colorée, mais elle est ardue, difficile. Elle n'est pas encore très pure.
Que voulez-vous, Marie, nous sommes encore au XVe siècle, et comme dirait notre ami Monsieur Charançon, qui était avec nous la semaine dernière, Malherbe n'était pas encore venue. Au fait, bonne année, Monsieur Charançon.
Ah, bonne année, Monsieur Charançon. Mais dites-moi, François, comment s'achève la destinée de François Villon?
Cela, Marie, Dieu seul le sait, car à partir de 1463, on a perdu toute trace de notre poète. Où, quand et comment mourut-il? Trois questions auxquelles je ne vous apporterai pas de réponse. Mais sa mort, Villon l'a souvent imaginée. Il en avait une peur atroce, une peur physique.
La mort le fait frémir, pâlir, le nez courbé, les veines tendres, le col enflé, la chair mollir, jointes et nerfs croître et étendre. Corps féminin qui tant est tendre, poli, soif, si précieux, te faudra-t-il ces mots attendre? Oui, ou tout vif, aller aux cieux.
Il avait lui-même rédigé son épitaphe.
Si j'y ai d'or en ce solier, qu'amour oxyde son rayon, un pauvre petit escolier qui fut nommé François Villon. Onque de terre n'eut sillon, il donna tout, chacun le sait, table, tréteau, pain, corbillon. Pour Dieu, dites-en ce verset. Repos éternel donna-t-il, lumière, clarté perpétuelle, qui va en plat, ni écuelle, n'eut onque, n'un brin de persil. Il furet, chef, barbe, sourcil, comme un navet qu'on ré épelle. Repos éternel donna-t-il. Rigueur le transmit en exil et lui frappa au cul l'appel, nonobstant qu'il dit « j'en appelle », qui n'est pas terme trop subtil. Repos éternel donna-t-il.
Il avait réglé ses comptes envers chacun avec la violence, le réalisme, la brutalité qui lui étaient propres.
aux chartreuses et à célestins, à mendiants et à dévotes, à musards et claque-patins, servantes et filles mignottes, portant surcos et justes cottes, à cuidéraux d'amour transi, chaussant sans méen fauve botte, je crie à toutes gens merci. À fillette montrant tétin pour avoir plus largement hôte, à ribleur, meneur de hutin, à bateleur, traînant marmotte, à fous et folles, sots et sottes, qui s'en vont sifflant cinq et six, à veuves et à mariottes, je crie à toutes gens merci. Sinon aux traîtres chiens matins qui m'ont fait ronger dure crotte, et boire, ô mains soirs et matins, corps je ne crains pas trois crottes, je fesse pour eux pèse et rote, je ne puis car je suis assis. Bien fort pour éviter riotte, je crie à toutes gens merci. Qu'on leur froisse les quinze côtes, de gros maillets forts et massis, de plombés et de telles plottes, je crie à toutes gens merci.
Et puis peut-être François avait-il eu un pressentiment, une prémonition. Peut-être s'était-il vu lui-même pendu haut et court, au bout d'une corde, quand il avait écrit cette célèbre ballade, son plus beau poème, celui auquel nos auditeurs ont accordé 3118 voix, et que nous redira ce soir, pour conclure, Serge Reggiani.
Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée, pourrie, et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si vous clamons, frères, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxys par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas le sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme ne nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséchés et noircis. Pis, corbeaux, nous ont les yeux cavés et arrachés la barbe et les sourcils. Jamais, nul temps, nous ne sommes assis. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becqueté d'oiseaux que des accoudres. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur tout sa maîtrise, garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie, à lui n'avons que faire, ne que soudre. Homme, ici n'usez de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
C'est vraiment extraordinaire, c'est déroutant, c'est incroyable.
Vous parlez tout seul, François.
Je suis perplexe, et quand je suis perplexe, je m'exclame. J'ai envie de parler tout haut.
Mais qu'avez-vous donc, mon cher? Je crains que décidément la poésie ne vous donne la fièvre du mardi soir.
Non, ce n'est pas précisément de la fièvre, mais...
Depuis que l'anthologie des 200 plus beaux poèmes a paru, régulièrement vous feuilletez fébrilement les pages. Soyez calme, mon ami.
Je suis calme, mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Par exemple, Marie...
Ah, c'est très bien de prendre des exemples.
Oui, enfin, par exemple, Marie, Hugo.
Victor Hugo? Eh bien, Hugo, qu'est-ce que vous lui reprochez ?
Oh, je ne lui reproche rien. Mais regardez dans l'anthologie, les poèmes de Hugo occupent une place importante, considérable. Ils vont de la page 282 à la page 313.
Ah, en effet, c'est considérable. Mais où voulez-vous en venir ?
À ceci, que je pensais que Victor Hugo serait considéré par les auditeurs comme le plus grand poète français. Or, il n'occupe dans le classement général des poètes que la quatrième place.
Ah oui, c'est exact. Il est classé après Ronsard, oui. Après La Fontaine, après Verlaine, mais avant Villon. Vous l'avez déjà fait remarquer au moins deux fois.
Oui, je n'en reviens pas et je crois que c'est un peu injuste.
Je ne trouve pas. En ce qui me concerne, je préfère Ronsard.
Ça, Ronsard est un grand poète, c'est vrai, mais Hugo...
Ah, mais je vous répète que je préfère Ronsard.
Hugo est un immense génie. Son œuvre est d'une variété, d'une grandeur, d'une virtuosité, d'une puissance, d'une splendeur incomparable. C'est un géant, comme Dante, comme Shakespeare.
Oh, l'enthousiasme vous égare.
Mais non, Marie, non. Je viens de relire tous les poèmes de l'anthologie et je vous jure que c'est admirable, incomparable, vraiment prodigieux.
Non, écoutez, voyons, François, soyez un peu plus mesuré dans vos expressions.
Mais non, on ne peut pas comparer, mesurer, limiter le génie de Victor Hugo. Tenez, ouvrez l'anthologie à la page 285.
Attendez, 285. Océano Nox.
Oui, Océano Nox. Je ne vous parle que pour mémoire de Beaux Endormis, qui est le poème de Victor Hugo préféré des auditeurs. Je choisis Océano Nox. Lisez-le attentivement. Vous verrez quel souffle, quelles images, quelle force d'évocation. Lisez-le et relisez-le. Et écoutez, tenez, Jean Chevrier qui va le dire.
Oh, combien de marins, combien de capitaines, qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leurs équipages. L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages, et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée. L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues, heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Oh, que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève ceux qui ne sont pas revenus. On s'entretient de vous parfois dans les veillées, main joyeux cercle, assis sur des ancres rouillées, mêlant encore quelque temps vos noms d'ombre couverts au rire, au refrain, au récit d'aventure, aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures, tandis que vous dormez dans les goémons verts. On demande où sont-ils ? Sont-ils au roi dans quelque île ? Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ? Puis votre souvenir même est enseveli. Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. Le temps qui sur toute ombre en verse une pluie noire, sur le sombre océan jette le sombre oubli. Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue. L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charrue ? Seul, durant ces nuits où l'orage est vainqueur, vos veuves au front blanc, lasses de vous attendre, parlent encore de vous en remuant la cendre de leur foyer, de leur cœur. Et quand la tombe enfin fermait leurs paupières, rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond. Pas même un saule vert qui s'effeuille à l'automne. Pas même la chanson naïve et monotone que chante un mendiant à l'angle d'un vieux pont. Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires ? Ô flots, que vous savez de lugubres histoires ? Flots profonds, redoutés des mers à genoux. Vous voulez raconter en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous.
Mmh.
c'est presque trop beau. Voyez-vous, François, pour moi, la poésie doit être plus personnelle, plus humaine, moins pompeuse, plus émue.
Mais Victor Hugo a écrit aussi des poèmes personnels, comme vous dites, des poèmes d'une émotion convaincante, contagieuse, intime. Il y a tout dans Victor Hugo.
Ah oui, c'est exact. Je devine que vous pensez à ce poème que je viens de relire, « À Villequier ». Mais je vous dirai cependant...
Non, Marie, ne soyez pas entêtée. Laissez-nous écouter, puisque vous en avez parlé, pour que nous puissions juger en connaissance de cause, Marie Marquet dire un fragment d'À Villequier.
Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte à apaiser les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Je conviens à genoux que vous seul, Père Auguste, possédez l'infini, le réel, l'absolu. Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste, que mon cœur est saigné, puisque Dieu l'a voulu. Je ne résiste plus à tout ce qui m'arrive par votre volonté. L'âme de deuil en deuil, l'homme de rive en rive, roule à l'éternité. Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent passent sous le ciel bleu. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Je le sais, oh mon Dieu. Dans vos cieux, au-delà de la sphère des nues, au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Je vous supplie, ô Dieu, de regarder mon âme et de considérer qu'humble comme un enfant et doux, comme une femme, je viens vous adorer. Considérez encore que j'avais dès l'aurore travaillé, combattu, pensé, marché, lutté, expliquant la nature à l'homme qui l'ignore, éclairant toute chose avec votre clarté, que j'avais, affrontant la haine et la colère, fait ma tâche ici-bas. Que je ne pouvais pas m'attendre à ce salaire, que je ne pouvais pas prévoir que vous aussi, sur ma tête qui ploie, vous appesantiriez votre bras triomphant et que vous qui voyez comme j'ai peu de joie, vous me reprendriez si vite, mon enfant. Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire s'il ose murmurer. Je cesse d'accuser. Je cesse de maudire. Mais laissez-moi pleurer. Hélas, laissez les pleurs couler de ma paupière, puisque vous avez fait les hommes pour cela. Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à mon enfant: sens-tu que je suis là? Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure. L'instant, pleurs superflus, où je criais l'enfant que j'avais tout à l'heure. Quoi donc? Je ne l'ai plus. Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires, Seigneur. Quand on a vu dans sa vie un matin au milieu des ennuis, des peines, des misères et de l'ombre que fait sur nous notre destin apparaître, un enfant, tête chère et sacrée, petit être joyeux si beau, qu'on a cru voir s'ouvrir à son entrée une porte des cieux, lorsqu'on a vu 16 ans, de cet autre soi-même croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici-bas qui persiste de tout ce qu'on rêva. Considérez que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va.
Je reconnais que c'est beau et très émouvant.
Et encore, vous n'avez entendu qu'un fragment. Relisez-le, Marie, relisez-le. Mettez un petit bout de papier à la page 286 pour le relire intégralement.
Ah non, je ne veux pas vous contrarier. Je relirai à Wilkie, je vous le promets. Et je vous concède que Victor Hugo parle admirablement des enfants. Je ne sais pas si je préfère lorsque l'enfant paraît ou Jeanne est au pain sec.
J'hésite aussi, Marie, j'hésite. Voulez-vous que nous écoutions ces deux admirables poèmes ? Lorsque l'enfant paraît sera dit par Marcel André, Jeanne était au pain sec par Raymond Souplex.
Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se déritent soudain voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre les chaises se toucher, quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire, on rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois, nous parlons, en remuant la flamme, de patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme qui s'élève en priant. L'enfant paraît, à Dieu le ciel et la patrie et les poètes saints, la grave causerie s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure où l'on entend gémir comme une voix qui pleure l'onde entre les roseaux, si l'aube tout à coup là-bas lui comme un phare, sa clarté dans les champs éveille une fanfare de cloches et d'oiseaux. Enfant, vous êtes l'aube, et mon âme est la plaine qui des plus douces fleurs embaume son haleine quand vous la respirez. Mon âme est la forêt dont les sombres ramures s'emplissent pour vous seul de suaves murmures et de rayons dorés. Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies, car vos petites mains, joyeuses et bénies, n'ont point mal fait encore. Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange, tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'auréole d'or. Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche. Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche. Vos ailes sont d'azur. Sans le comprendre encore, vous regardez le monde. Double virginité, corps où rien n'est immonde, âme où rien n'est impur. Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisés, laissant errer sa vue étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même dans le mal triomphant. De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants.
Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir pour un crime quelconque. Et manquant au devoir, j'allais voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux sur qui dans ma cité repose le salut de la société s'indignèrent et Jeanne a dit d'une voix douce « Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce. Je ne me ferai plus griffer par le minet. » Mais on s'est écrié « Cet enfant vous connaît, elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Elle vous voit toujours rire quand on se fâche, pas de gouvernement possible. » À chaque instant, l'ordre est troublé par vous, le pouvoir se détend, plus de règles, l'enfant n'a plus rien qui l'arrête, vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête, et j'ai dit, je n'ai rien à répondre à cela, j'ai tort, oui. C'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte, qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes, on vous y mettra. Jeanne, alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, plein de l'autorité des douces créatures, eh bien moi, je t'irai porter des confitures.
François, lequel de ces poèmes préférez-vous ?
Je ne sais toujours pas. Ce qu'il y a d'admirable chez Hugo, c'est la puissance de renouvellement. C'est un créateur d'une fécondité telle qu'il semble qu'aucun domaine ne puisse lui être étranger.
Oh, tout de même, François, tout de même.
Mais non, il y a dans l'œuvre de Hugo des poèmes qui sont prophétiques, qui annoncent et précèdent Baudelaire et la poésie moderne. Il y a des poèmes classiques que n'eût pas désavoué Malherbe. Il y a aussi des poèmes que seul il pouvait écrire. Connaissez-vous La Conscience, Marie ?
Ah oui, je le connais, ce poème. Il figure d'ailleurs dans notre anthologie page 294.
Oui.
L'œil était dans la tombe et regardait Caïn.
Non, ne riez pas, Marie. Je sais que ce poème est très connu, trop connu peut-être. Ça se produit d'ailleurs souvent pour les poèmes d'Hugo, mais il n'en est pas moins admirable. Je voudrais que vous l'écoutiez avec des oreilles neuves. Je vais demander à Jean Marchat de nous le dire.
Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons. » Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, » dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir, sinistre, dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. « Arrêtons-nous, » dit-il, « car cet asile est sûr. Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il. Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étends de ce côté la toile de la tente. Et l'on développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb, vous ne voyez plus rien, dit-il là, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Caïn répondit, je vois cet œil encore. Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans des clairons et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière. » Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit, « Cet œil me regarde toujours. » Enoch dit, il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle. Bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors, tu, Balkain, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine, chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth, et l'on crevait les yeux à quiconque passait, et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrer !» Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. « Oh, mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblante Sylla. Et Cain répondit « Non, il est toujours là. » Alors il dit, je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et Cain dit, c'est bien. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Cain.
C'est parfaitement beau et grand, François, je vous l'accorde, mais...
Mais il y a un mais.
Oui, je pense à ce que nous disait un poète, notre ami Philippe Soupeau.
Il n'aime pas Hugo ?
Mais si, François, ah. Il ne s'agit pas de cela. Philippe Soupeau, rappelez-vous, nous disait qu'il n'y avait pas d'humour sans poésie et pas de poésie sans humour. Eh bien ?
Eh bien ?
Eh bien, je pense que Victor Hugo manquait d'humour.
Quoi ? Hugo, pas d'humour, mais c'est insensé. Je pourrais vous citer 100 poèmes de Hugo illuminés par l'humour.
Un exemple, s'il vous plaît.
Un exemple ? Les djinns, Marie. Les djinns. Et tenez, mardi prochain, nous consacrerons notre émission à l'humour poétique, ou si vous préférez, à la poésie de l'humour. Et nous comparerons l'humour d'autres poètes comme Mathurin Régnier, Marot, Voltaire, à celui de Hugo.
C'est entendu, François, l'hugolâtre.
À mardi prochain.
Et vive l'humour.
C'était « Faites-vous-même votre anthologie », une émission réalisée d'après le référendum concours de la poésie française, organisé par la radiodiffusion Télévision française, présentée par François Perrier et Marie Dems, avec aujourd'hui le concours de Marie Marquet, Marcel André, Jean Chevrier, Jean Marchat et Raymond Souplex, avec la collaboration artistique de Roger Pilaudin, illustration musicale de Maurice Jarre, prise de son Albert Laracine, production et réalisation de Philippe Soupeau et Jean Chouquet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er janvier 1956.